Hi, my name is Peter Mayhew. I play Chewbacca on Star Wars, and you're listening to Star Wars on Direct.
Cette émission vous est présentée par Cyclan.net, votre source d'information sur l'univers Star Wars.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
The force is strong in this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
Hello, I think.
We would be honored if you would join us.
On prend les mêmes et on recommence. Effectivement, nous voilà pour de nouvelles aventures avec Star Wars en direct. Alors, nous voilà pour l'émission 90 de la reprise de 2014. Alors, je suis avec moi par les deux anciens de l'émission, parce qu'on ne peut pas faire ça sans eux. Alors, je suis avec Danny. Salut, Danny.
Bonjour, tout le monde.
Et Sébastien. Salut, Sébastien.
Salut, Harry. Bonjour, tout le monde.
Alors, content de reprendre l'émission après un an d'absence, encore des ondes.
Ouais, en fait, ça fait un mois et quelques semaines depuis l'annonce de Disney, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis cette dernière émission.
C'est sûr, et donc c'est pour ça que nous sommes de retour, parce que notre passion est revenue, et ce sera le sujet un peu de notre débat, comme vous allez pouvoir le voir dans à peu près une petite demi-heure dans notre fichier. Voilà, alors Danny, après tant d'absence, et comme on annonce sûrement avoir de nouveaux auditeurs avec l'arrivée des nouveaux films, alors on va te laisser un peu te présenter, qui es-tu un peu?
Ben, en fait, du côté de la communauté Star Wars... Mon surnom était Lunatique dans le temps, donc j'ai aidé énormément à la gestion du site web d'information Star Wars Cyclan.net depuis 2000, donc un an après sa création, jusqu'à mon départ en 2005, qui a été repris par Sébastien. La gestion a été reprise par Sébastien. Et à cette époque, en même temps, on a lancé Radio Cyclan, qui est devenu Star Wars en direct en français en 2001, janvier 2001, puis Star Wars en direct en anglais de 2003 à 2006 pour ma part et jusqu'en 2007, je crois, avec Sébastien et d'autres animateurs. Donc, c'était ma contribution, en fait, à la communauté Star Wars francophone. Depuis ce temps-là, avec j'ai complètement changé de profession. Je suis retourné aux études à temps plein. Donc, j'ai vraiment déconnecté un peu de Star Wars pendant cette époque-là. Maintenant, avec l'annonce de Disney, l'achat de Disney et maintenant les films qui approchent, bon, ma passion revit lentement, mais sûrement. Donc, ça va me faire un plaisir de participer le plus que je peux à la relance de l'émission et par plaisir en tant que fan aussi de participer.
Et tu seras
cette émission qu'on a fondée, moi et Sébastien, en 2001.
Et donc, et professionnellement, je n'étais pas trop indiscret.
Ah, je suis un graphic designer, donc je fais site web, graphisme, logo. Je suis passé d'une profession scientifique à une profession un peu plus artistique. Donc, et je travaille pour l'Association canadienne de soccer, football en Europe et partout dans le monde, mais... En Amérique, on appelle ça soccer. Donc, les équipes nationales de soccer du Canada qui sont ordinaires, disons. Peut-être l'équipe féminine qui est bonne.
À ton tour, Sébastien, présente-toi.
Alors, moi, j'ai rejoint Cyclan en 99, juste quelques temps après Danny, je crois. Ben, c'est ça, le site n'a pas cessé d'augmenter. Donc, merci à toute la communauté. Maintenant, je suis l'administrateur en chef, mais j'aimerais quand même souligner l'incroyable support de Imera et de tous les autres membres de l'équipe Cyclan qui font rouler le site jour après jour, sans qui on n'aurait pas des nouvelles à tous les jours comme on en a présentement. Et moi, je suis un super fan de la Guerre des Étoiles. J'ai fait plusieurs entrevues télévisées, j'ai fait plusieurs apparitions dans des conventions. C'est Star Wars, c'est ma passion, puis ça me fait toujours plaisir d'en parler et de revenir donc à l'émission après tant d'années parce que bon, la vie, c'est la vie. On a connu beaucoup de virages, Danny nous a quittés pour aller faire un relancement professionnel et malheureusement, je dois dire que je n'étais pas aussi bon que lui. Et donc, on est maintenant rendu avec quelques émissions en moins. Mais Star Wars en direct a quand même continué quelques temps après lui et on a bien apprécié tout l'incroyable travail que Danny avait fait.
Et le côté professionnel aussi, si tu as...
Alors, côté professionnel, j'ai fait énormément de trucs différents, incluant des trucs personnels. Donc, voyons, j'ai été chef sushi, j'ai été journaliste, j'ai été toutes sortes de choses et présentement, je suis un validateur de contenu publicitaire dans une compagnie qui s'appelle TouchToons. Donc, on fait des jukebox avec des écrans tactiles. Donc, quand même un truc intéressant.
Et pour ma part, ben moi, je suis Henri, alors parce que souvent, comme je lance l'émission, mon prénom n'apparaît pas souvent, donc on me connaît plus souvent sous le nom de pseudo Dalsk. Alors, je pense que certains de nos éditeurs me connaissent du temps où j'étais le webmaster de Kemi Web, un ancien site internet de Star Wars qui a disparu en 2008. Que j'avais rejoint en 2001, si je ne me trompe pas. Et puis après ça a été... Par contre, j'ai d'abord rejoint Star Wars Universe avant de passer sur Sidclan ensuite. Sinon, du côté de l'émission, c'est Danny qui m'avait invité lors de la reprise, justement, en 2008 aussi, pour faire partie de l'émission Star Wars en direct, au moment de la reprise où il invitait des participants des sites... des sites français de Star Wars. Et donc ensuite, je suis rentré au sein de cette équipe et j'y suis maintenant et c'est moi qui tiens un peu les rênes qui essaie de bouger un peu tout le monde. Et côté professionnel, pour l'instant, je suis encore à la recherche de ma voix, mais mon souhait, ce serait de devenir écrivain ou alors j'essaie aussi de lancer des projets au sein d'une association, mais c'est un peu compliqué et ça met un peu plus de temps. Voilà. Comme Star Wars en direct revient après un an, on a pris plusieurs bonnes résolutions. Tout d'abord, nous avons écouté un petit peu les commentaires des gens via iTunes ou même sur la page Facebook. La critique qui revenait le plus souvent, c'était qu'on s'étendait un peu trop. Alors, notre première résolution, c'est de faire des émissions un peu plus courtes. Donc, vous ne verrez plus d'émissions de 3 heures, 4 heures ou 5 heures comme lors de la grande époque de Star Wars en direct, mais nous allons essayer de condenser ça au maximum. Une heure et demie. Bon, peut-être que ça pourrait être dépassé si nous avons un débat vraiment passionnant qui est vraiment avec des participants qui ont plein de choses à dire. On va essayer de rester dans une durée d'une heure et demie, avec un débat qui ne dépassera pas entre 45 minutes et une heure pour ne pas éviter de s'étendre sur des sujets qui n'auront plus rien à voir. Ensuite, on vous annonce la création de plusieurs sous-émissions. Tout d'abord, Star Wars en direct Rebels. Comme son nom l'indique, on discutera des épisodes de la série animée qui va bientôt être diffusée en Amérique sur la chaîne Disney XD. Donc, comme nous ne savons pas encore bien comment ça va être diffusé, on va sûrement faire des émissions plus condensées, différentes de ce qu'on faisait à l'époque pour Clone Wars. Donc, ça sera sûrement des émissions qui vont regrouper en 45 minutes, une heure maximum, quatre épisodes de la série ou pour chaque arc scénaristique. Comme ça nous permettra d'arriver plus vite à l'essentiel. Donc, on pourra vous proposer dès début mai une émission au zéro où nous discuterons un peu des personnages, de la situation présentée de la série, de l'animation, de ce qu'on en sait et un peu présente un peu tout ça.
Quand même une grosse différence avec l'ancien Star Wars en direct.
Voilà, effectivement. Ouais. Et donc ensuite, effectivement, la différence, c'est qu'on va créer Star Wars en direct SP. Donc, qui va être autour des news épisode 7 dès la fin mai. Donc, effectivement, Dany, comme tu le dis, ça va être différencié du vieux Star Wars en direct, qui était en fait avant la partie hyperespace, contenait effectivement les parties spoilers. Et vous demandiez, toi et Sébastien, de revenir une demi-heure après, à peu près, pour éviter à ceux qui ne voulaient pas être spoilés de revenir. Et donc, c'est un peu ce qu'on va éviter désormais. Donc, maintenant, nos émissions seront entièrement spoiler-free pour ceux qui veulent nous écouter du début à la fin, donc vous n'aurez pas peur d'être spoilé. Donc cette émission Star Wars en direct XP se contiendra tous les spoilers et les rumeurs, vraiment les informations qui parleront des films de la troisième trilogie, les spin-offs, éventuellement les séries live et tout ça, mais ce sera que spoilers. Donc n'ayez pas peur d'être, vous n'aurez pas de spoilers dans nos émissions mensuelles.
En fait, c'est tout ce qui va avoir rapport à l'histoire en tant que telle. Parce que oui, on va annoncer le casting, par exemple, dans l'émission régulière de Star Wars en direct. Mais tout ce qui a rapport à l'histoire du film, etc., les détails, les planètes, etc. Donc, exactement.
Nos commentaires, évidemment, sur le synopsis, nos commentaires sur les bandes-annonces et tout ça, ce sera dans cette nouvelle émission. Mais par contre, notre rubrique Hyperespace qui sera de retour dans quelques minutes, nous allons encore discuter rapidement, résumer quelques rumeurs et quelques informations autour de l'univers Star Wars. Mais dès la prochaine émission 91, la partie Hyperespace se concentrera uniquement sur des news un peu diverses, plutôt diverses.
En fait, c'est plus sur le tournage que sur l'histoire du film. Voilà. Qu'on va parler.
Mais cette émission-là, ça sera seulement deux participants pour essayer d'être succinct et de ne pas trop perdre de temps dans des débats qui iraient peut-être trop loin. Ensuite, ce que j'ai envie de proposer à nos auditeurs, s'ils sont d'accord, ce sera l'enregistrement de cette émission autour de Clone Wars. Alors effectivement, nous n'avons fait aucune émission Clone Wars depuis un certain temps, par manque d'intérêt. Alors c'est pour ça que nous en étions à l'émission 43. Alors c'est pour ça que j'ai pris la décision, si je trouve la motivation suffisante pour créer donc cette émission finale, qui nous amèneront jusqu'à l'émission 50, pour parler des derniers arcs scénaristiques importants, c'est-à-dire l'arc Savage Opress, l'arc du Jedi Pong Krell, tout ce qui est autour de Dark Maul, la fin de la saison 5 importante avec Ahsoka, et le plus important arc scénaristique de la saison 6, celui de Yoda. Ensuite, toujours autour de ça, on est en train de refaire un peu le site internet de l'émission, parce qu'il a aussi date un petit peu, donc on en parlera un peu plus lors des prochaines émissions et tout ça. Puis effectivement, on va vous faire un peu saliver, on a plusieurs projets à l'étude autour de Star Wars en direct, mais on en parlera une autre fois, une fois que ça deviendra un peu plus concret pour ne pas annoncer des choses qui n'arriveront peut-être pas, et on vous en parlera, on va en parler en dehors des ondes entre Daniel, Sébastien et moi-même, et voilà. Donc, j'espère que toutes ces annonces vous redonneront envie de revenir auprès de Star Wars en direct. Vous serez tous là, nos auditeurs, à nous écouter, à faire partager vos envies et à commenter autour de nous. Voilà.
Et je voudrais rajouter ceux qui sont intéressés à participer. Je ne sais pas si on en parlait à la fin ou non, mais ceux qui voudraient participer comme animateurs réguliers, etc., pour ces différentes émissions, envoyez-nous un courriel à l'adresse qu'on va donner à la fin de l'émission pour qu'on puisse voir avec vous si vous pouvez être là régulièrement, etc. Donc, c'est pas des auditions en tant que telles, mais voir votre intérêt pour certaines de ces émissions-là, parce qu'on ne pourra pas toujours être là à 100% des émissions.
Et comme on veut effectivement avoir de nouvelles émissions vraiment régulières, plus vous serez là, plus comme ça, si quelqu'un se désistera, on aura une autre personne pour remplacer, on pourra garder ces émissions régulières. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qui vous attend, le mois prochain, il y aura l'émission, donc vers la mi-mai, vous aurez le droit à l'émission 91. Mais début mai, on espère vous proposer l'émission 0 de Star Wars en direct autour de la série Rebels. Et d'ici la fin mai, nous vous proposerons Star Wars en direct, la première émission de Star Wars en direct SP. Donc, en gros, maintenant, chaque mois, vous pouvez au moins espérer d'ici dans les mois, et on espère les années qui arrivent, presque 3 émissions par mois. Donc, il faudra vraiment garder la motivation de tout le monde, parce que ça ne sera pas facile. Alors, nous allons pouvoir passer à la partie hyperespace. Première petite annonce, c'est Alan Horn, le président de Disney, qui a annoncé que le tournage a commencé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça a été une petite surprise pour tout le monde tout d'un coup qu'on avoue que le tournage avait commencé, bien qu'on pouvait un peu s'en douter.
Ben, en général, en général, il y a toujours ils captent des images de paysages, etc. Puis tu as des unités secondaires qui peuvent filmer des extras, des je veux dire des acteurs de soutien, etc.
Le projet avance bien et donc on attend toujours le tournage principal pour mi-mai, pareil.
C'est ça. Donc, si le tournage est commencé, c'est du tournage sans J.J. Abrams. Donc, seulement les unités secondaires qui filment un peu partout dans le monde.
Donc, ensuite, c'est pour ça. Il y a plusieurs rumeurs autour des tournages. Il paraît qu'on pourrait retourner au Maroc avec une recréation de Tatooine et même en Islande. Donc, Maroc, il paraît qu'il pourrait même y tourner à Abu Dhabi pour un mois entier. Bon, ça, évidemment, tout ceci n'a pas été confirmé.
Abu Dhabi, tu veux dire?
Pardon. Effectivement. J'ai toujours l'envie de dire à l'angliciste, excusez-moi. Mm-hmm. J'ai beau être français.
Hein. Oh, ben, même en anglais,
c'est un bon québécois, je pense.
Non, mais même en anglais, c'est Abu Dhabi.
Bon. Je m'excuse, chers auditeurs. Donc, en tout cas, ça serait effectivement, il paraît qu'on retournerait sur Tatooine, mais ça n'a pas été confirmé encore une fois. Puis l'Islande, les gens font tout de suite le lien entre l'Islande et Hoth, mais effectivement, Hoth n'est pas forcément en Islande, parce que l'Islande, à ce que j'ai pu voir sur Internet, à cette époque-là, ça devient très verdoyant, donc ce n'est pas possible que ça soit plutôt pour une planète un peu plus proche de ce qu'est Naboo.
En Islande, tu as quand même des volcans, donc tu peux avoir des lieux de tournage très volcaniques aussi, donc ça peut être...
Il y a vraiment un peu de tout, donc faut pas vraiment s'attendre. Si ça se confirme, faut pas s'attendre forcément à un retour, ça peut être une planète de glace.
Mm-hmm. Ben, en fait, pour Tatooine,
le désert.
Je sais pas si on va y retourner, on va en parler dans une autre émission, mais c'est certain qu'avec la Tunisie, les conditions politiques et le désert qui est en train d'enfouir les lieux de tournage des années 70 et 80, c'est certain qu'ils n'ont peut-être pas le choix de faire ça à un endroit différent.
Et pour moi, effectivement, un désert, pour moi, c'est que pour Tatooine. Donc, il y a moins de choix possibles. Mais on peut être surpris. On ne sait pas ce qui nous attend. Ensuite, ils ont annoncé le nom des deux caméras principales qui seront utilisées sur l'épisode 7, on vous rappelle que ce sont des caméras argentiques, car Abrams n'a pas voulu tourner en numérique. Donc, apporte le doux nom de Millennium Falcon et Death Star.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, en fait, de tourner de façon traditionnelle, parce que ça va quand même rapprocher un petit peu du look de la trilogie originale. Comme on voit autant... du côté de la prélogie que tout est beau, tout est lisse, tout est propre. C'était la même chose côté tournage. Tout était numérique, tout était vraiment très détaillé. Si on retourne un peu en arrière et on refilme un peu dans le même style, oui, ça va être numérique parce qu'on va numériser toutes les pellicules, mais ça va ramener un ton de couleur probablement, etc., qui va se rapprocher un petit peu de la trilogie originale.
Une qualité d'image un peu graineuse, oui.
Ouais, un bruit un peu dans l'image, etc., qui va rapprocher. Les couleurs vont être probablement différentes que le numérique un petit peu, donc ça va vraiment faire un pont avec l'époque de la trilogie originale qui était sale, des vieux vaisseaux, etc. Peut-être, oui, qu'en 30 ans, on va perdre dans une autre émission, mais peut-être qu'en 30 ans, ça redevient un peu plus propre.
On peut espérer qu'ils vont créer de nouveaux vaisseaux, peut-être qu'à la chute de l'Empire, ils ont sûrement pu avoir le...
Exactement, mais bon, pour faire une continuité avec la trilogie originale, je trouve que c'est une bonne idée. On verra si ça va être le cas aussi pour l'épisode 8 et 9. Peut-être pas. On va peut-être faire une transition de retour vers le numérique.
Je pense qu'ils n'osent pas le dire, mais je pense qu'Abraham sera plus impliqué sur la troisième trilogie qu'on le pense.
Mm-hmm. Je pense. On verra selon son succès.
Voilà. Effectivement, mais ce dont les gens ont un peu peur, effectivement, c'est que ça risque de... Effectivement, ça va rallonger un peu la post-production parce qu'il faudra derrière numériser toutes les bobines.
Mais bon, pour ce qui est du nom des caméras, c'est original. Je veux dire, en fait, moi, tous mes disques externes ont des noms Star Wars aussi. Donc, mes clés USB, mes disques externes ont tous des noms Star Wars. Donc, il n'y a rien de, de spectaculaire. Ça ne me surprend pas d'un fan de Star Wars comme J.J. Abrams.
Puis, je me souviens aussi, bon, c'est pas par rapport à Star Wars, mais je me souviens aussi qu'ils avaient, je crois, nommé aussi les caméras numériques sur le Hobbit. Je crois que j'avais vu un documentaire comme quoi chaque caméra aussi avait son petit nom. Voilà. Donc ensuite, la rumeur là aussi qui est presque vérifiée, qui est presque sûre, c'est que Peter Mayhew, Chewbacca serait de retour. Mm-hmm. Ça n'a pas été encore confirmé, mais les sites internet sur lesquels je me suis basé, ils l'annoncent presque vraiment sûr et certain. Donc beaucoup de fans de l'UE ont crié « Non !» Bon, mais ça encore, on ne sait pas dans quel contexte l'acteur va réapparaître. Donc là aussi, nous faut encore en savoir plus.
Ben, en fait, l'histoire qu'on a entendue, c'est que bon, il a cancellé sa présence à une convention au Texas qui est son lieu de résidence. Donc, ça a poussé les gens à se demander pourquoi. Et il y a quelques mois aussi, il y a eu un remplacement des deux genoux, donc parce qu'il y avait énormément de difficultés à se déplacer. Donc, il y a eu un remplacement des deux genoux qui, depuis ce temps-là, probablement qu'il peut vraiment marcher depuis ce temps-là. Mais ce qui a vraiment, je crois, animé le débat par rapport à sa présence, c'est qu'est-ce que Alan Horn avait dit, que le tournage était déjà commencé. Donc, je doute qu'il parlait de Chewbacca en tant que tel, mais ça l'a animé les rumeurs. Et aussi, il y avait des gens qui avaient été visiter une maquette grandeur nature du Faucon, et puis certains techniciens avaient dit « Ah, le problème de Chewie, on l'a réglé. » Donc, on peut toujours se demander d'où viennent ces commentaires-là. Donc, tout reste à voir. Mais ça ne me surprendrait pas que si on voit Han Solo, que Chewie soit là. Est-ce que c'est en flashback ou c'est une scène avec
voilà, exactement. C'est exactement
de l'histoire? Ça reste à voir. Donc.
C'est exactement le commentaire que j'avais laissé sur un site internet. Peut-être que ça sera juste un flashback en début d'épisode ou au cours du film en disant Han Solo qui se souvient de Chewbacca, de leur vie, de leurs dernières années avant sa mort. Mm-hmm. On sait vraiment... Encore une fois, on est dans l'attente.
Ensuite, toi, Sébastien, excuse-moi, Sébastien, t'as allumé ton micro, t'avais-tu quelque chose à rajouter?
Non, en fait, au niveau du film, j'ai l'impression que la question intéressante à se poser, c'est est-ce que J.J. Abrams va éditer le film à partir de la pellicule ou après la numérisation? Mais ça, on pourra en parler dans une autre émission. Puis pour Peter Mayhew, oui, effectivement, bon, il y a eu l'opération chirurgicale pour remplacer ses rotules. Donc maintenant, il est capable de marcher. Donc, on verra bien. J'espère que c'est pas un truc de flashback. Peut-être juste une intro où est-ce qu'on le voit arriver sur Kashyyyk puis ils se disent bye-bye, puis c'est ça. Mais ça, encore une fois, on pourra en parler dans une autre émission. Mm-hmm. Donc, je vous laisse continuer.
On va terminer par quelques petites news en dehors de l'univers de l'épisode 7. Alors, on annonce que Big Bang Theory and The Goldbergs, les deux sitcoms américaines rendront hommage à un épisode à Star Wars en mai. Donc, je ne sais pas.
Voilà. Ben, moi, de Goldberg, j'ai juste écouté une émission parce que ça a tombé en conflit avec d'autres choses que j'écoute. Mais de Big Bang Theory, je suis fan depuis très longtemps, depuis les débuts, en fait. Et je suis très heureux après l'apparition de Carrie Fisher et James Earl Jones, surtout James Earl Jones qui avait vraiment un personnage très intéressant. Ben, il se jouait lui-même, mais dans un tout autre contexte qu'on pouvait l'imaginer. Donc, c'était vraiment drôle. Donc, j'ai hâte de voir, surtout que c'est Lucasfilm qui s'est invité. Donc, ça peut être très intéressant, les effets spéciaux qu'il devrait recréer, que c'est supposément Dagobah. Donc, ça reste à voir.
Oui, effectivement, il y a même des gens de ILM qui ont participé pour aider à recréer, effectivement. Surtout pour Big Bang, la planète Dagobah, effectivement.
Mm-hmm. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je pense pas que c'est le 4 mai exactement.
Big Bang Theory, je crois que c'est quelques jours avant, et Goldberg, c'est quelques jours après.
D'accord.
Mais donc, en tout cas, Big Bang, je pense que Goldberg, j'ai jamais vu, mais je pense que je regarderai cet épisode.
Ben, en fait, c'est une émission qui se passe dans les années 80. Donc, à l'époque de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi. Donc, à l'époque que l'âge que j'ai, quand j'étais jeune, moi. Donc, on voit un peu l'époque des années 80, comment que les gens ont vécu les films Star Wars. Ben, j'imagine que c'est ça qu'on va montrer un peu. Un peu comme aussi dans une ancienne émission avec, je me souviens plus du tout, That 70 Show, qui avait fait un épisode sur Star Wars et que les personnages de ce sitcom trippaient sur Star Wars. Donc, c'était vraiment excellent.
Oui, ils avaient tous beaucoup d'affiliations avec Star Wars. Il y a beaucoup de références à Star Wars dans That 70 Show.
De toute façon, ce genre de série avec un peu un caractère un peu geek, il y a toujours la possibilité de faire apparaître Star Wars. C'est vraiment en plus, c'est très, très ancré en Amérique, beaucoup plus qu'en France et même dans d'autres pays. Donc, c'est un peu logique qu'il fasse un peu outrage. Mais c'est un peu étrange quand même que ça tombe pile en mai, qui est un peu le mois Star Wars.
Non, mais ils ont fait exprès. C'est une façon de faire du marketing, de promouvoir. Probablement que le casting va être annoncé autour de cette date-là. Donc, c'est une façon de promouvoir. Mais on fera une autre émission sur les mentions de Star Wars dans la culture pop parce que il y en a partout aux États-Unis, peu importe le style d'émission. Plus besoin que ce soit une émission geek maintenant, que ce soit CSI ou peu importe. Voyons, le Castle, peu importe, tu as des références à Star Wars dans pratiquement toutes les émissions tous les jours maintenant. C'est que les réalisateurs de ces émissions-là ont grandi avec Star Wars et qu'ils sont maintenant réalisateurs, ils insèrent des références Star Wars. Donc, c'est quelque chose de spécial qu'on pourra faire un sujet là-dessus si on veut une émission future.
Je suis partant. Et donc, ensuite, on annonce aussi que Amy Henning a rejoint Visceral Games pour travailler sur un jeu vidéo Star Wars. Alors, il paraît qu'elle a travaillé sur Uncharted, la série Uncharted. Donc, moi, je suis pas tellement jeu vidéo, donc je ne sais pas très bien, je connais pas vraiment la personne, mais apparemment, j'ai lu un peu des commentaires comme quoi les gens seraient assez excités à propos de cette nouvelle, parce que je crois qu'elle a peut-être participé au scénario ou des choses comme ça. Je crois qu'elle a été creative designer sur Uncharted, donc il paraît que c'est un bon. Ça a été un peu la nouvelle du jour. Enfin, pour moi, c'était parce que je savais même pas que Visceral Games était en train de travailler sur un jeu vidéo Star Wars. Pour moi, le seul jeu vidéo à venir était le nouveau Battlefront par DICE. Donc voilà, je suis curieux d'en savoir un peu plus et tout ça.
Sébastien pourra probablement en dire plus, mais moi, de qu'est-ce que j'ai entendu de Uncharted? C'est que c'est un des meilleurs jeux scénarisés depuis longtemps. Et je pense qu'il y en a eu trois, Uncharted. Mais moi, je suis pas un jeu vidéo non plus, mais c'est le genre de jeu que moi, j'aimerais. Donc, un peu scénarisé, que tu participes à certaines scènes. Donc, c'est vraiment quelque chose que pour moi, qui est super intéressant. Plus que Battlefront, parce que je suis pas très jeu à première personne. Parce que je suis trop mauvais. les enfants de 13 ans sont capables de me battre facilement. Donc, je suis vraiment plus les trucs scénaristes. Puis ce genre de jeu ont d'extrêmement bons écrivains. Donc, ça fait que c'est pratiquement des films. Donc, il y a un potentiel énorme à ce genre de jeu qui peuvent être une extension d'un film ou pratiquement un spin-off d'un film. Donc, ça m'intéresse énormément et ça va peut-être me faire acheter un PS4 ou un Xbox One quand ça va sortir. Donc,
moi, de mon côté, je suis un peu plus excité par Battlefront, parce que surtout pour la partie multijoueur, parce que je suis un grand fan de Battlefield depuis maintenant presque 3 ans. Donc, s'il nous réserve un multijoueur aussi puissant que peut l'être Battlefield... ça sera un jeu que je ne pourrais pas rater.
Toi, Sébastien, t'as-tu joué à Uncharted ou les jeux similaires?
J'ai pas joué à Uncharted, non. Mais effectivement, c'est un jeu qui est très connu dans la communauté du gaming. On sait que oui, Amy Henning, elle a fait beaucoup de scripts pour plusieurs choses. C'est une excellente écrivaine. Donc, on va voir ce que ça va donner avec Star Wars. Mais elle a participé à des scénarisations comme Legacy of Kain, entre autres, avant Uncharted. Ça vous donne une idée là, que c'est des jeux de grand renom là, mm-hmm. que les gens avaient beaucoup de plaisir à jouer, puis justement à cause du story arc là.
Ouais, donc c'est, ça.
C'est pas mal. Excellent. Ça.
Et on terminera pour une petite news littérature, parce qu'on peut pas rater, on peut pas y couper. C'est que l'éditeur américain Baker & Meyer a annoncé le Imperial Handbook, A Commander's Guide, c'est-à-dire le quatrième gros coffret avec son et lumière autour des impériaux cette fois-ci, après avoir fait les Jedi, les Sith, les chasseurs de primes.
Ah.
Donc, encore un beau coffret en attente avec son et lumière pour bien encore prendre de la plage chez soi, mais... On n'y coupera pas. Je pense que pour beaucoup de collectionneurs de ce genre de produits, on l'achètera.
C'est le genre de truc vraiment intéressant à posséder, oui. J'en ai pas un encore, puis je m'en range. Ah,
justement, j'ai reçu récemment, grâce à mon renouveau de passion dont on va parler dans 30 secondes, mm-hmm. j'ai justement acheté, je me suis récemment offert le premier, le Jedi Path.
Moi,
j'apprécie beaucoup.
je dois vraiment dire que côté univers étendu, malgré que j'ai vraiment quitté pendant 4 ans la littérature, je me suis quand même acheté les 3 livres Making of de Rinzler, je crois. Oui. Les briques, comme je les appelle, sur les Making of sont vraiment intéressants. J'ai pas commencé à les lire, j'ai feuilleté seulement. Mais c'est quelque chose que je veux. Durant mon fandom, je pourrais dire, j'ai mis beaucoup d'efforts sur l'histoire. Des personnages, mais avec ces livres-là, on voit vraiment plus l'histoire du tournage et des films et tout ce qui se passait pendant ce temps-là. Donc, c'est un côté que je veux exploiter plus. Je veux connaître plus sur Star Wars côté tournage, contrairement à l'univers étendu maintenant. Donc, je veux en apprendre plus sur la franchise plus que sur l'histoire des personnages.
C'est marrant, conclu ce que tu veux dire.
Non, c'est ça. Puis l'autre livre que j'ai entendu parler qui m'intéresse, c'est le Death Star Technical Manual. Donc, c'est une compagnie qui produit des livres pour des voitures, des livres, des guides utilisateurs de modèles de voitures, donc pour réparer le moteur ou peu importe. Mais cette compagnie-là fait aussi des guides fictifs pour différents vaisseaux, différentes choses, aussi des différentes franchises. Je pense qu'ils l'ont fait pour Star Trek. Mais là, ils font le manuel technique de l'Étoile Noire. Donc, j'aimerais bien ça, le feuilleter pour voir de quoi ça a l'air.
Mais tu parlais justement des gros making-of. Justement, là aussi, je me suis offert celui de l'Empire Contre-Attaque, le seul qui est sorti pour l'instant en France. Et effectivement, moi c'était effectivement ce qui m'a plus... j'ai un peu feuilleté, surtout la première partie sur l'avant-tournage, justement, que de la façon dont vous voyez un peu le début de justement, plutôt la partie script que voyait George Lucas avant le début de tournage, avant qu'il fasse ses jets finaux. Et pour moi, mm-hmm. c'est plutôt cette partie-là qui est intéressante, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'aurait pu être Star Wars s'il avait laissé cours à son imagination avant de laisser Lawrence Kasdan de toucher à son script.
Mm-hmm. En fait, ce qui est spécial de ces livres-là aussi, du moins je pense celui du Retour du Jedi, c'est que maintenant il y a une version e-book qui a plus de contenu que la version papier. T'as des extraits inédits vidéo qu'il n'y a dans aucun documentaire, des trucs comme ça. C'est seulement 20$ la version e-book. Donc, t'as le livre au complet plus des extraits vidéo inédits à l'intérieur. Donc, j'ai acheté le livre, mais je vais peut-être m'acheter la version e-book simplement pour avoir les extraits vidéo inédits, etc. Donc, c'est peut-être quelque chose pour les fans.
Refaire passer la caisse, encore une fois.
Comme et ça ne fait que recommencer, malheureusement. Voilà. Ben, pas malheureusement, mais...
C'est sûr que vu ce qui va arriver l'année prochaine, je pense que... Tcha-ching!
Ouais, exactement. Bien, ben, insérer ici le son du tiroir caisse.
Voilà. Maintenant, j'ai un petit parti planning des sorties entre mi-avril et mi-mai sur le sujet de Star Wars. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend jusque... le mois prochain. Alors, le 16 avril, le dernier numéro de la série chez Dark Horse, Darth Vader and the Cry of Shadows, le numéro 5. Et le même jour, The Star Wars numéro 7, comme vous le savez, qui reprend l'histoire du premier Star Wars d'après le script original de George Lucas. Le 23 avril, Ça sera l'Omnibus Knights of the Old Republic volume 3, c'est un TPB chez Dark Horse. Dark Time volume 7, A Spark Remains, c'est un autre TPB. Star Wars Legacy 14. Le 24 avril, en France, chez Pocket, le 8e Destin de Jedi qui portera le nom Ascension. Ensuite, le 25 avril, chez l'éditeur Huguin et Munin, les storyboards Star Wars sur la prélogie, qui est un gros livre qui est sorti en Amérique il y a quelques temps déjà. Ensuite, le 30 avril, chez Dark Horse, Rebel Heist numéro 1. En France, on retourne en France le 1er mai pour le Star Wars Comics Magazine numéro 9. Et en Amérique, le storyboard de la trilogie originale. Ensuite, on passe un petit peu une partie communauté fan. Le 3 et 4 mai, il y aura deux conventions qui auront lieu. La première est Génération Star Wars et Science-Fiction 2014 à QC, qui est un grand rendez-vous que la plupart des fans de Star Wars attendent pour ceux qui peuvent y aller. Et la deuxième, qui aura lieu à Amélie-les-Bains, s'appelle la convention ASFA 2014. Et on termine par le 7 mai, l'Omnibus Dark Times, volume 2, en TPB, et le 14 mai, Star Wars 17. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres choses à rajouter de ce côté-là, Dany et Sébastien.
Aucune idée, non. Quand...
Non. Parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est surtout de la littérature, donc je m'excuse, j'ai plutôt une connaisseur du côté univers étendu, donc je ne sais pas.
On pourrait toujours dire que le casting est imminent, c'est une chose qui va arriver d'ici avril et mai.
Oui, j'espère qu'on saura quand même le nom des acteurs avant le début du tournage. Voilà, nous allons maintenant passer à notre partie débat où nous serons rejoints par Jean-François. Donc aujourd'hui, la question à nos participants est « Connaissez-vous un renouveau de votre passion ?» Alors pour donner quelques précisions supplémentaires, avec toutes les rumeurs et les news autour de l'épisode 7 ainsi qu'un réveil progressif de la communauté, est-ce que tout ceci a ravivé votre passion pour Star Wars ? Alors, Dany, on va commencer par toi.
Bien sûr. En fait, c'est sûr que ça a réveillé quand même un peu ma passion. J'étais au neutre, si on peut dire. Oui, j'écoutais... quand même les Clone Wars, je ne les écoutais pas en direct, je les écoutais quand j'avais le temps et je rattrapais les saisons. Donc c'était
que la sixième.
Ah ouais.
T'as trouvé le temps.
Oui, j'ai trouvé le temps. En fait, c'est ça. J'ai continué seulement avec Clone Wars. J'ai pas lu un seul livre Star Wars depuis 4 ans et même plus à cause de mes études et mon nouveau travail. Donc j'avais mis les freins sur la lecture. Je pense que le dernier que j'avais commencé à lire, en fait, c'était un audiobook même. C'était le premier Fate of the Jedi, je crois. Je sais pas si c'est Outcast ou quelque chose comme ça.
Tu n'as
donc,
rien manqué.
Je n'ai rien manqué, bon, tant mieux.
Moi, j'adore cette période, alors putain.
en fait, c'est vraiment le dernier que j'avais commencé, puis j'ai pas eu le temps de continuer. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment arrêté Star Wars. Oui, je continuais à regarder Clone Wars. Écouter la musique, bien sûr, ça reste quand même dans mes habitudes de vie au travail.
La musique, je pense que même les fans qui ont disparu écoutent toujours. Hein, c'est vraiment, je pense qu'on peut pas vraiment le qualifier au bout d'un moment au sein de la passion Star Wars. La musique, c'est vraiment quelque chose à part.
C'est ça. Une autre chose que j'ai été obligé de couper, c'est obligation familiale ou quoi que ce soit, c'est les conventions. Donc, j'ai pas été à aucune convention non plus. J'ai été peut-être à une exposition sci-fi, c'est comme 2-3 heures seulement, qui était à Ottawa, mais c'était pas Comic-Con, c'était une petite rencontre à l'Université Carleton. Donc, c'était pas vraiment une convention. Puis c'était il y a quelques mois, donc je compte pas ça vraiment comme une convention. Tu sais, participer à fond à une convention, ça fait extrêmement longtemps. Là, je pense vraiment c'est...
Non, je veux dire, pour ta convention, c'était plutôt un concours de circonstances. Je veux dire, c'était là où tu habitais, donc tu as profité.
Ouais, exactement.
Tu n'as pas eu trop de déplacements à faire en disant « Ah, je suis motivé, on va y aller parce que j'ai très envie d'y aller.
» Non, exactement. C'est, je pense que c'est vraiment la dernière que j'ai faite. C'était peut-être Célébration 3, Sébastien, je suis pas certain.
je pense que oui.
je pense qu'on a fait un Star Wars en direct à Ottawa, que j'ai été vous voir pour faire l'émission, mais vous aviez été à une convention ou une rencontre de Fan Force ou je sais pas trop, que j'ai participé à l'enregistrement, mais j'ai pas participé aux événements en tant que tel. Donc, c'est peut-être la dernière fois. Puis, SFX à Toronto, c'était-tu avant ou après Célébration, ça?
C'était la même année, c'était 2005.
OK, donc j'étais à celle-là. Donc, c'était après.
Ça nous rajeunit pas.
C'était au mois d'août. Donc, c'est probablement celle-là, la dernière que j'ai été. Donc, j'ai vraiment... Oui, en fait, oui.
T'as pas fait de convention depuis 9 ans, là?
Non, c'est la vie.
Ouais.
Donc c'est certain que récemment, oui, j'ai continué à regarder les médias sociaux. En fait, depuis l'arrivée des médias sociaux, vraiment. Ouais. Donc, je continue à suivre qu'est-ce qui se passe sur Twitter, Facebook, etc. Et j'écoute la quantité industrielle de podcast hours en anglais qui existe maintenant. Donc, les principaux là, de Forcecast, Rebel Force Radio, il y a une coûte de Nathan Butler encore, etc.
Tous ceux de moi, pour moi, ceux de The Force, j'ai jamais trouvé la. Je trouve qu'ils sont un peu trop professionnels peut-être pour du Star Wars. Je trouve que j'aime bien garder cette qualité côté fan.
Le côté communautaire de la chose.
Voilà, j'ai jamais réussi vraiment à accrocher au Forcecast ou même leur nouvelle Rebel Force Radio, j'ai un tout petit peu testé, rien, j'y arrive vraiment pas, c'est trop professionnel. Même si j'aime bien notre radio et tout ça, j'aime bien le côté, on est proche, il y a des petites erreurs, il y a des petits bruits, on met une heure et demie pour se préparer à faire une émission, on est pas en live, donc.
en fait, je crois que Jimmy et Jason n'ont pas vraiment le choix à cause de la qualité des invités. Et des contacts qu'ils ont maintenant, le niveau de qualité doit être extrêmement haut et très officiel, entre guillemets, en frais de qualité.
Pour savoir sans direct, vous aviez des invités, c'était pas non plus...
Oui, mais notre qualité était pas à ce point-là. On était les seuls qui faisaient ce niveau-là à cette époque. C'est donc, c'est probablement pour ça qu'ils venaient nous voir, c'était un bon moyen pour eux de venir se promouvoir leur livre, etc. Mais maintenant... la qualité
c'est avec ça alors qu'ils venaient pour ça.
Exactement. Maintenant, la qualité est tellement supérieure, la qualité sonore, la qualité de production en général, et aussi le fait que tout est relié par les réseaux sociaux, donc tout est connecté, la popularité est globale, beaucoup plus, la quantité de monde qu'ils atteignent maintenant est beaucoup supérieure. Donc, ça l'a aidé beaucoup à la grandeur du podcast, à la croissance de leur podcast, qui maintenant, probablement que si je serais pas déménagé à Ottawa, que ce serait nous peut-être qui serait rendu à ce niveau-là. Désolé, Sébastien.
Je t'en veux pas, Danny, je t'en veux pas.
Peut-être pas trop s'éloigner de notre débat, parce que l'une de nos bonnes résolutions de ce retour de Star Wars en direct est d'essayer de rester plutôt au sein du sujet.
La communauté, ouais, c'est ça. Donc,
pour préciser un petit peu notre histoire, notre question de débat, tout ça concerne plutôt est-ce que vous êtes remis à lire les livres, ou alors est-ce que vous avez tout d'un coup dit, tiens, Star Wars reprend, je vais peut-être recommencer à acheter des choses, ou est-ce que je vais peut-être me passer plus de temps sur les sites internet, à peut-être consulter les news et tout ça. De toute façon, nous qui faisons l'émission et ceux qui vont l'écouter, nous sommes évidemment de retour parce que nous avons retrouvé l'envie de faire justement ces émissions à cause des news de Star Wars qui vont arriver en masse.
Exactement. On va avoir du matériel maintenant à parler parce qu'après l'épisode 3, oui, avec Clone Wars, mais je veux dire, l'auditoire général, c'est les ceux de mon âge, l'âge à Sébastien, voilà, ouais. C'est différent un peu.
Je pense que même des gens de 80 qui ont commencé comme moi en 97, je pense qu'il y en a. Évidemment, encore une fois, l'univers étendu, ça attire beaucoup de monde, mais ce n'est pas pour ce qu'on appelle les mainstream fans.
Non, c'est ça.
Les fans principaux, ils sont plutôt là pour les films et les. Peut-être. Le seul truc qui aurait pu raviver un peu plus la flamme aurait été la série live.
Mm-hmm.
Parce que ça aurait été avec de vrais acteurs, donc il y aurait eu peut-être des vraies histoires avec de vrais acteurs, donc ça aurait été un peu plus... parce que évidemment, comme c'est animé, les séries animées, ça attire tout de suite un peu moins la foule.
En tout cas, pour terminer ma portion, oui, je viens d'acheter Dark Plagueis parce qu'il paraît que c'est un roman absolument incroyable. Donc, dans la dernière année, vraiment, j'ai seulement lu les 5 livres de Game of Thrones. Donc, j'ai absolument pas eu le temps de lire autre chose. Mais là, au mois de mai, je m'en vais en vacances et j'amène Dark Plagueis pour me remettre un peu dedans. Et on verra qu'est-ce qui va arriver avec l'univers étendu, qui sera un autre sujet. Mais
on en parlera une autre fois, effectivement.
Exactement. Mais bon, oui, j'ai commencé à regarder un peu plus, à racheter certains livres. J'ai vraiment arrêté ma collection quand je retournais aux études. Donc, j'ai 4-5 ans de retard. mais je vais peut-être essayer de prendre. Ouais, je vais peut-être prendre certains livres seulement qui ont une bonne réputation côté critique, donc pour me remettre dedans.
Les derniers livres vraiment de ces dernières années, ça s'est surtout consacré pendant un petit moment sur les Fate of the Jedi. Parce qu'il y avait 9 bouquins et ça a pris une bonne partie des publications de ces dernières années.
Enfin, c'était ma partie à moi. Je pense qu'on devrait passer le micro à Jean-François avant qu'ils doivent quitter.
J'y vais, c'est toi.
Oui. Moi, de mon côté aussi, ma passion, ben, je pense comme pas mal tout le monde, la flamme, elle s'était éteinte. Même l'annonce de l'achat de Lucasfilm par Disney, ça a pas. C'est pas ça qui a ramené la flamme, même je pense que ça posait plus de questions qu'autre chose. Donc, je pense que de mon côté, c'est des circonstances qui ont fait depuis l'épisode 3, bon ben j'ai eu 2 enfants, donc ça a comme couvert un temps mort. Puis là, ma plus vieille fille, elle va avoir 4 ans, donc elle commence à s'intéresser un peu à Star Wars, elle écoute Clone Wars avec moi et tout. Donc, je pense que c'est ça qui fait que ça ramène un peu qui a ramené un peu la flamme. Donc, moi aussi, comme Danny, j'avais arrêté de lire les livres. J'ai lu Fate of the Jedi pas au complet. J'ai lu, je pense, les 3 premiers livres, puis j'étais déçu de la série. Donc, ça a fait comme, pour moi, c'était, OK, c'est fini, ça m'intéresse plus. Puis, l'année dernière, j'ai acheté, juste comme ça, c'est un coup de tête, j'ai acheté Scoundrel de Timothy Zahn, puis j'ai acheté Kenobi. Puis ces deux livres-là m'ont totalement surpris. C'était 2 livres qui étaient, je trouvais, très originaux. Donc, c'est ça qui a fait comme, ah, OK, il y a quelque chose ici. Puis là, je pense, comme je dis, ma fille qui s'intéresse. Puis là, pour ce qui est... moi, je jouais beaucoup aux Star Wars, aux miniatures et tout. Et le contrat de Wizard of the Coast avec Lucasfilm s'était terminé il y a quelques années. Mais là, la compagnie Fantasy Flight, eux, ils ont eu le contrat pour... le jeu de rôle, les miniatures et les jeux de cartes, puis ils ont commencé à sortir leur jeu l'année dernière. Donc, c'est aussi les jeux de miniatures et tout, très intéressant, très original. Fait que tout ça fait que ma passion revient. Pour ce qui est des films, je sais pas encore. Ben, je veux dire, pour l'épisode 7, j'ai mes craintes, mais bon.
Pour tout le monde, je pense. Non, mais je pense que, comme effectivement, comme tu le disais, il y a eu le rachat par Disney, mais je pense que c'est maintenant, alors que le tournage va vraiment commencer, que les fans se disent, ça y est, ça arrive vraiment, ce n'est plus une plaisanterie, c'est plus, on y est vraiment, on va vraiment avoir des spoilers, on va vraiment avoir des annonces importantes qui vont être faites, parce qu'effectivement, à l'époque de l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney, bon, c'était fait, ça a fait un grand choc dans la communauté, mais il y a c'était pas encore vraiment du concret, on pouvait pas encore vraiment toucher la chose. Alors que là, vraiment, on voit, on a, comme on dit, on est presque au bout du tunnel, on commence à avoir l'autoroute qui va arriver, qui est le tournage, puis après, on aura le péage qui va être le film, si on peut parler de cette métaphore-là. Et puis, donc je pense que c'est vraiment depuis 2-3 mois, vraiment, que la communauté commence vraiment à s'agiter comme des petits électrons et...
Pourtant, je trouve que toutes ces nouvelles-là, ça pose plus de questions qu'autre chose.
Oui,
comme quand
c'est
Disney a acheté Lucasfilm, ils ont fermé LucasArts, fait que plus de jeux vidéo. Oui. Tous les contrats, on ne sait pas ce qui se passe avec Del Rey parce qu'ils n'ont aucun livre qui est annoncé après le mois de janvier de 2015. Le dernier livre est supposé sortir au mois de janvier 2015, il n'y a plus rien d'annoncé après. Donc, il y a plus de questions qu'autre chose.
Mais quelquefois, justement, là, il y a eu le début de Disney, bon, après, mais le problème, c'est justement, c'est ça. Même si ce sont des questions qu'on se pose, même si ce sont des choses dont on ignore, il y a quand même, on veut justement faire des débats autour de ça, on se pose des questions, donc on va chercher d'autres fans à qui on va pouvoir y discuter, donc ça finit par, on voit que les forums se ragitent, les sites internet se réactivent un peu, donc ça ramène des gens dessus, et puis ça prend une, c'est effet boule de neige.
Ouais,
moi, qu'est-ce que
tout à fait d'accord.
Moi, qu'est-ce que je trouve excitant, c'est de voir comment Disney gère la franchise Marvel. C'est un des items qui, pour moi, je trouve ça excitant de voir qu'il y a une possibilité très grande que la franchise Star Wars, dans le futur, va être un miroir un peu de ce qu'ils sont en train de faire avec Marvel. Donc, pour moi, en tant que fan de Star Wars, je trouve ça excitant. Si, je sais pas s'ils vont rapprocher la procédure qu'ils ont faite avec Marvel pour Star Wars ou si ça va être complètement différent, ça reste à voir. Mais juste l'anticipation de ça, avec les films spin-off, les séries télé, etc.
C'est sûr
je trouve ça excitant en général. Donc ça ravive beaucoup ma passion pour Star Wars.
Mais ça aussi, je pense que cette histoire de Disney, de sa façon de gérer la franchise, va aussi animer pas mal de nos débats dans des prochaines émissions. Et toi, Seb, on t'entend pas là derrière, hein?
Non, effectivement, avec ma merveilleuse voix radiophonique du jour. Alors, je crois que, oui, la flamme, commence à se raviver, tranquillement, pas vite. Là, cette semaine, on a eu des nouvelles de possibles personnes qui vont faire partie des films. Ça me rappelle un peu 1999, quand ils avaient commencé à annoncer Liam Neeson, Natalie Portman, etc., etc. Ça reste un peu des rumeurs, ça reste très subtil. Y a des trucs vraiment complètement folles, comme les cheveux de Karen Gillian vont apparaître dans l'épisode 7. C'est comme... OK, c'est OK, bravo. Donc, tout le monde se pose la question présentement. Oh, Mary Jade.
Mais en fait, c'est ce que j'ai, justement, je l'ai pas précisé dans ma news que j'ai faite sur Site Clan, c'est que nulle part sur les informations qu'elle a donné l'actrice, nulle part n'est dit que ça sera pour ce film-là. Mm-hmm. C'est tout le monde s'est précipité de dire que c'était pour l'épisode 7 et tout ça, mais elle a jamais parlé elle a juste dit que ça partait chez Star Wars.
Puis elle pourrait jouer le rôle d'une sénatrice aussi, c'est bon, on s'entend là.
Ouais. Mm-hmm. Mais bon, là, on s'éloigne encore du sujet.
pour ce qui est de raviver la flamme, même moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est Fury, de la série Legacy of the Force.
Ouais, encore plus de retard.
Ouais, je suis vraiment, vraiment loin. J'y vais pas à pas. C'est sûr qu'avec toutes les conventions, j'ai eu quand même pas mal de fun, mais j'ai remarqué que la communauté, l'intensité de la joie du fandom Star Wars baissait au travers des années. Donc, au départ, c'était « Oh, on va à une convention pour avoir du plaisir, pour avoir des rumeurs, tout ce qui est sur des prochains livres, sur Clone Wars. » Puis, au bout du compte, c'est « On termine, on va aux conventions pour rencontrer nos amis qu'on voit une fois par 3 ans. »
Toi, Sébastien, tu as été aux autres célébrations.
Oui, j'ai fait toutes les dernières célébrations. Je compte faire la prochaine à Anaheim aussi. Mm-hmm. Donc,
là-bas.
Comment?
Si tu trouves le courage, je nous fais une petite émission aussi. Direct, pas vraiment direct, mais un petit enregistrement comme tu nous avais fait pour la célébration 5.
Ouais. Alors, regarde, moi, c'est même pas certain que je vais y aller. Donc, oui, ça, j'adorerais y aller là, quand même, mais tout va dépendre de la situation de mon travail à ce moment-là et les projets que j'ai à faire. Donc, je peux pas, comme avant, acheter des billets 3 ans d'avance, peu importe les hôtels comme on faisait avant.
Ben, les fans font comme Luc, si tu veux. Ils deviennent de moins en moins insouciants, puis de plus en plus responsables.
Ben, la population vieillit aussi. Les fans de la trilogie classique, de la trilogie originale, un peu comme Jean-François, ils sont rendus maintenant des parents. La dynamique est différente. Oui, ils aiment beaucoup Star Wars, mais ils ont des obligations qui vont aller par-dessus, aller à des conventions ou quoi que ce soit. Donc,
il n'y a pas que les fans de la première heure et aussi même ceux des fans qui ont commencé avec la prélogie, hein, ils ont pris 15 ans de plus aussi, donc mm-hmm. toute la communauté a vieilli. Même les petits, même des petits qui auraient commencé avec Clone Wars en 2008, ils ont 6 ans de plus maintenant, donc ils peuvent être passés de l'enfance à l'adolescence et presque au début de l'adulte.
Mais et comme JF disait, toutes les dernières nouvelles des dernières années posent plus de questions en ce sens, les nouveaux films. Est-ce qu'ils vont être axés plus pour plaire aux plus jeunes ou aux gens de la trilogie classique? Bon, c'est le genre de frayeur qu'on a.
Ben, jusqu'à présent, ça a été trilogique. Tout le monde, dans les interviews, il parle toujours de la trilogie classique, mais après, effectivement, il faut voir s'ils vont vraiment faire juste comme ça ou après, ils vont quand même garder un esprit bon enfant. Mais j'aimerais bien avoir... Enfin, c'est ce que tout le monde veut un peu, c'est un esprit un peu sombre, un peu plus sombre, un peu plus sérieux que la prélogie, mais... Pour la voir dans quelles circonstances se passe là. Je pense que c'est une question d'époque. Si c'est une époque où la galaxie est encore, où la galaxie est en paix et tout ça, je pense que peut-être que le début du film sera un peu bon enfant, le ton léger et tout ça, jusqu'à ce que peut-être que le conflit arrivera. Il faut voir.
Ou peut-être avoir un spin-off sur Jar Jar.
Mais en fait, pour rester sur le sujet, je pense que. C'est Jean-François qui peut expérimenter le mieux le renouveau Star Wars à cause de ses enfants. Parce que nous, quand on était jeunes, c'est nos parents, en tout cas dans mon cas, c'était ma mère qui m'a amené voir l'épisode 4 quand j'avais 5 ans. L'expérience que j'ai vécue à ce moment-là, Jean-François peut la revivre avec ses propres enfants. Donc, c'est comme éduquer une nouvelle génération. Sébastien, Genesis, pour ceux qui connaissent sur ce site-là dans le temps, Sébastien Tardy, aussi il y a des enfants qui sont mordus de Star Wars maintenant, donc il enseigne une nouvelle génération, donc c'est un autre point de vue du renouveau Star Wars. Le fait de voir ses enfants aimer ça, ça nous ramène à notre enfance. Comment nous, on aimait les jouets puis on aimait ces choses-là. Donc, côté renouveau, je pense que c'est Jean-François qui va avoir l'expérience la plus intense, je pense, comparativement à nous. jusqu'à ce qu'on ait des enfants dans certains, peut-être dans votre cas. Tandis que moi, c'est juste...
Faut que tu nous fasses des enfants, Danny.
Ah non, nous, on a décidé de ne pas en avoir, donc...
Ah.
Ça, c'est dommage.
Parce que tu aurais pu en avoir pile un qui aurait eu 4 ans ou 5 ans pour l'épisode de 9.
Moi, je pense que c'est moi qui vais avoir plus de plaisir à jouer avec les jouets Star Wars que ma fille.
Ouais. Je pense qu'il va faire beaucoup de sets de Lego, Jean-François.
Ouais, c'est ça.
Pas touche aux figurines, hein. Tu les laisses dans le plastique. Non, mais je pense que, encore une fois, je reviens là-dessus, mais une des preuves que la passion revienne, c'est effectivement, vous êtes Danny et Seb, vous êtes la preuve, vous revenez dans Star Wars en direct. C'est bien une bonne preuve que la passion vous revienne suffisamment pour refaire du Star Wars en direct.
Ben, on a tellement eu une bonne expérience à faire. À lancer cette émission-là et même l'affaire en anglais. Je pense que l'affaire en anglais a vraiment... je veux dire, on était le Forcecast puis le Rebel Force Radio de l'époque. Ouais. Et puis vraiment, le monde nous reconnaissait à cette époque-là. Donc, c'était vraiment spécial pour nous.
Comme on en parle récemment sur Internet, Star Wars en direct est l'une des premières web radios après Jedi Talk.
En effet. Ouais. En fait, avec le format talk show avec des pauses commerciales et faire du live, il n'y a personne qui faisait ça à part Jedi Talk et nous, là.
Mais après, on s'est transformé en podcast, mais c'est quand même, on est comme un des pionniers, il y a eu Jedi Talk, puis je pense que ça a été.
Mais on avait encore la version live.
Mais je pense que c'est le fait d'avoir tout court une radio à caractère Star Wars, que ce soit podcast ou pas podcast.
Oui, c'est ça. C'est juste que le terme podcast n'existait pas à cette époque.
Est-ce que vous auriez fait un truc live si les podcasts existaient déjà à l'époque? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que si vous avez eu la possibilité d'enregistrer en différé, vous n'auriez pas eu à être pile à telle heure, tel moment, vous auriez pu choisir n'importe quand pour enregistrer, comme nous, là, par exemple.
Oui, mais encore une fois, notre objectif, l'émission de Star Wars en direct à cette époque-là, c'était d'être interactif. Donc, le but, c'était d'interagir en direct avec les gens. C'est pour ça qu'il y avait le téléphone, le chat, la webcam. Oui, on n'avait pas les outils dans ce temps-là. Autant que maintenant, tout est ouvert. Tout le monde, avec un simple laptop, peut tout faire. Puis le web était vraiment pas aussi bien développé à cette époque. Donc, c'était différent, mais c'était unique à cette époque-là. Maintenant, c'est commun. C'est ça la différence. Donc, pour se démarquer, il faut être excellent, avoir une qualité de production excellente. Il faut avoir une bonne connexion. Il faut avoir un bassin de fans incroyable. Pour être la crème au-dessus des autres. Parce qu'il y en a beaucoup des podcasts comme Star Wars en direct qui étaient maintenant en fait pré-enregistrés. Là, je parle pas en direct, mais du niveau qu'on fait Star Wars en direct, maintenant, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Mais il y en a juste un ou deux peut-être qui ont une coche supérieure côté production et côté aussi le fait que ceux qui s'occupent de ces émissions-là, dans la vraie vie, dans leur vrai travail, ils sont des animateurs de radio. Donc, ça aide beaucoup au professionnalisme. Quand ton travail de tous les jours, c'est d'être animateur de radio. Tu fais la même chose quand tu fais ton podcast Star Wars. Donc, oui, il y a certains niveaux aussi d'expérience qui peut jouer dans certains podcasts qui fait que la qualité et cette personne-là connaît tous les trucs du métier. Donc, quelque chose que nous, on n'avait pas en tant que fan. Donc, c'est là peut-être la différence. Mais enfin, on s'écarte un peu du sujet. Mais oui.
Juste pour préciser, donc, quand tu parles de tout ça, c'est surtout des podcasts anglophones. Du côté français, il n'y a vraiment pas grand-chose. Nous sommes l'un des rares. Je sais que j'avais un peu regardé sur Internet. Je crois qu'il y a peut-être deux podcasts en France qui sont autour de Star Wars, mais c'est vraiment très, très minime. Nous sommes vraiment l'un des seuls à avoir un tel historique derrière nous.
En fait, si on regarde l'année de création, on est le podcast le plus vieux toujours en vie.
Ben oui.
Donc, à part Jedi Talk, qui n'est plus en onde, on est le seul depuis qui est encore en vie. On est vraiment le podcast le plus vieux, toutes langues confondues.
Même Jedi Talk, il a été là que quelques années. Il a été là 3 ans, je crois, en ligne seulement.
Ouais.
Donc, nous, on a vraiment une 13 ans d'existence, même si on a eu deux fois une année de vide entre. La première, ça a été l'année 2007, où il n'y a rien.
Les sabbatiques.
L'année dernière. Voilà, puis l'année 2012, où il y a eu une perte d'intérêt. C'est pour ça que, pour revenir sur le sujet, c'est qu'on, justement, nous, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'après plus d'un an de retour, nous sommes là. Donc, c'est vraiment parce qu'on a envie de parler de nouveau de Star Wars auprès de nos auditeurs et de faire partager notre passion. Donc, c'est encore une fois la preuve que notre passion est bien de nouveau ravivée.
Mm-hmm. Et j'imagine que nos auditeurs aussi vont avoir la... Ben, on va essayer de réallumer l'étincelle de certains auditeurs avec Star Wars en direct. Donc, c'est un peu j'espère le but aussi du retour. Là. La communauté francophone a côté radio absolument pas grand-chose. Donc, on va essayer de raviver un peu la flamme des gens puis de servir de plateforme pour que tous les gens puissent raviver la flamme et recommuniquer entre eux, recréer qu'est-ce qu'il y avait pendant la prélogie, dans le fond.
Moi, de mon côté, c'est sûr que la passion, elle a connu un bond formidable depuis quelques mois. Et comme je le disais tout à l'heure, que ça soit des trucs négatifs ou positifs, ça m'a quand même ça m'a donné quand même envie. Par exemple, l'annonce depuis quelques temps que comme quoi Marvel reprenait les comics. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie de me replonger dans ces comics de Dark Horse. Et depuis quelques mois, j'ai jamais autant acheté de comics Dark Horse pour compléter un peu ma collection. Là, j'en attends une presque 70 petits comics individuels que je dois recevoir par la poste. J'ai acheté des TPB, j'ai acheté des trucs. Puis là, comme vous voyez, encore pour une troisième fois, quatrième fois, on relance l'émission. Je suis de plus en plus présent. J'essaye d'alimenter de plus en plus les pages Facebook et Twitter de Site Clan et Star Wars en direct pour essayer de garder ça un peu actif. Mais j'ai aussi envie de, j'essaie de lire des vieilles, de lire les nouvelles de Insider que j'ai jamais lues. Je suis vraiment me replonger dans plein de choses. J'essaie de compléter un peu mes collections. J'ai passé, ça faisait bien longtemps que j'avais pas autant passé de temps auprès de Star Wars. Mm-hmm. Je passe mes journées à me renseigner pour acheter des vieux bouquins, pour essayer de compléter doucement ma collection avant qu'il soit trop tard. Je reprends vraiment des guides. Je relis un peu mes guides. Je relis un peu des, vraiment ma passion n'a jamais été aussi forte que depuis bien longtemps, hein. Et pourtant, même si Star Wars est la partie principale de ma vie, j'ai toujours lu les bouquins, même après, j'ai toujours regardé les Clone Wars et tout ça, bien que, comme nos auditeurs ont pu le voir, on avait arrêté les émissions Clone Wars par manque d'intérêt pour la série, et puis aussi un peu, une baisse d'intérêt pour Star Wars, mais je pense que c'est comme toute passion, ça s'entretient. Si on laisse un peu tomber, si effectivement la communauté laisse un peu tomber, si les bouquins intéressent moins les gens, si tout ça fait que si on entretient pas notre passion, on peut presque l'oublier, on commence à s'intéresser à autre chose, et puis ça passe au deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, puis après on se dit bah voilà, on a trop vieux, on essaye de se remettre un peu, mais on n'a plus le même intérêt. Et moi, je sais que c'est ce qui m'arriverait si je laissais tomber un peu Star Wars de temps en temps pour faire autre chose. C'est vraiment, je suis vraiment à fond dedans parce que je veux être à fond dedans et je mets mon temps dedans. Et le fait de mettre son temps dedans, on a envie de s'intéresser, on s'y plonge, quoi. C'est vraiment ça. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. De fait,
Moi, oui, j'ai un intérêt pour revenir, mais il est quand même limité. Donc, c'est pour ça que je pourrais pas aller à toutes les émissions, etc. Mais je veux essayer au moins par ma présence, puis probablement Sébastien, c'est la même chose, d'essayer de ramener un peu le public. Puis on a de l'histoire, moi et Sébastien, avec cette émission, donc on a la capacité de peut-être ramener certains auditeurs, plus particulièrement du Québec peut-être.
Oui, il faut garder la partie francophone dans l'émission.
Exactement, essayer de ramener un certain public, même si dans le futur, on sera peut-être pas présent aussi souvent qu'on le voudrait, mais du moins qu'il y a une présence du Québec qui est quand même l'origine de l'émission et de ce clan qu'on va essayer quand même de conserver, même si le pourcentage de population qui s'est rejoint est infime à comparer à l'Europe. Donc,
on peut essayer de reconstruire justement notre communauté, et plus on aura de gens qui nous écouteront, plus on sera vu sur Internet, et plus on sera vu sur Internet, plus on aura des gens qui voudront participer et nous faire connaître, et ça pourra aussi nous donner plus en justement, plus on sera reconnu, partagé, et les gens viendront nous dire on aime votre émission, plus ça nous donnera envie d'en faire de plus en plus, et peut-être qu'on augmentera notre rythme, on sait pas, mais c'est à vous, auditeurs, de nous dire si vous en voulez plus ou si ça vous plaît, et de nous faire connaître.
Parlant des auditeurs, Henri, est-ce que tu as la page de Star Wars en direct ouvert sur ton ordinateur?
Je peux faire ça dans les 10 secondes.
Donc, pendant que tu fais ça, on a un de nos auditeurs qui est organisateur de...
J'ai même pas besoin d'aller sur Facebook, je les ai imprimés devant moi, donc j'ai bien préparé mon émission.
Donc, c'est ça, il y a Fabien Dumas qui est organisateur de la convention Les Héritiers de la Force à QC, qui nous a laissé un message. Donc, Henri, je te laisse le lire parce que ma voix va partir, moi.
Donc, sans commentaire, pour ma part, je pense que la curiosité fait son effet et je suis clairement plus l'actualité qu'à une époque qui a été creuse. Mais je ne pense pas, pour l'instant, dire que ma passion connaît vraiment un renouveau. Un léger regain de curiosité, c'est sûr. En revanche, en tant qu'organisateur de convention, on sent clairement plus l'effervescence cette année par rapport aux précédentes. Beaucoup plus de monde réagissent, que ce soit sur notre page officielle ou sur notre groupe Facebook qui est devenu un vrai forum de partage Star Wars. En tout cas, je trouve pour l'instant la communication autour de l'épisode 7 plutôt réussie, en ne dévoilant que très peu d'informations, et donc en laissant la place à un certain mystère qui évite les déceptions et les erreurs de communication. Voilà son commentaire.
C'est bien.
C'est très agréable de voir que sa convention, effectivement, connaît un regain. Je pense que ça, en effet, c'est un bon exemple de montrer que les fans ont à nouveau reviennent faire Star Wars, ça c'est sûr.
C'est sûr que ça va aider à toutes les conventions. À cause du regain, bien sûr, mais aussi les acteurs maintenant, ils sont plus propices à aller à certaines conventions qu'auparavant, je crois. Si tu regardes, plus spécialement les grosses conventions, tu vois Comic-Con, puis ces affaires-là. Maintenant, c'est une excellente plateforme de promotion, les conventions, contrairement à avant, où est-ce que c'était un public très geek qui y allait, tandis que maintenant, geek, c'est rendu plus populaire. Être geek, c'est pas rejeté autant qu'avant. Donc, le public va beaucoup plus à ce genre d'événement maintenant. Donc, pour le marketing, c'est excellent. Donc, de plus en plus, les gens des films vont aller et des émissions de télé vont aller à des conventions. Ça va attirer beaucoup plus de monde, etc. Les événements devraient grossir jusqu'à une certaine limite quand même, mais
La participation de Mark Hamill au prochain Disney Weekend, je pense que c'était déjà une... Non, c'est Disney Weekend, je sais plus. En tout cas, c'est un...
Les Star Wars Weekend, oui.
Ouais, c'est ça, oui. Et donc, je pense que, bon, outre que ça peut confirmer sa participation à l'épisode 7, mais je pense aussi que ça se rapporte à ce que tu nous dis, là. Je pense que peut-être qu'il a dit, il voit que ça y a un regain et peut-être qu'il veut se remettre un petit peu en avant au sein de la communauté.
Mais c'est sûr que Mark Hamill, j'ai l'impression que... Bon, on parlera pas de l'épisode 7, mais bon, le fameux trio va être un élément de marketing incroyable. Donc, ils ont pas ramené pour rien, là. Vraiment, là.
Je pense qu'il y a double emploi. Je pense que d'un côté, ça vient du fait que c'est Lucas qui avait écrit son histoire il y a très, très longtemps. Donc, il prévoyait, de toute façon, d'avoir Luc en Leia. Mais d'un autre côté, effectivement, comme tu dis, ils vont faire sûrement un énorme battage d'informations derrière pour bien dire à tous les anciens, regardez, les personnages que vous avez aimés et suivis depuis tellement d'antan d'années sont de retour pour votre plus grand plaisir.
Ils veulent ramener l'ancienne génération, ceux qui ont perdu l'intérêt après la prélogie, enfin.
Voilà, donc j'espère qu'Abraham se rend compte de ce qu'il a entre les mains, parce que si tout d'un coup il rate son coup avec l'ancien trio, je pense que ça... Parce que déjà que les fans disent je peux un peu ignorer la prélogie et je peux me concentrer sur les personnages que j'aime, mais si tout d'un coup Abraham se rate sa vision des personnages que les gens ont aimés depuis presque 40 ans, je pense que ça peut porter un coup terrible à la communauté.
Bon, c'est sûr. Mais bon, il est fan de Star Wars, ouais. Premièrement, donc ça va l'aider, je crois.
Il y a aussi un intérêt aussi par rapport aux fans. On se demande ce qui va se passer. Il y a une anticipation qu'on se demande. On va rester à l'affût de chaque petite information de ce côté-là. Je pense plus que par rapport à la prélogie. Parce que pour la prélogie, on connaissait pas vraiment les personnages. Bon, on savait que c'était Anakin, on le connaissait pas vraiment. On connaissait pas Qui-Gon, on connaissait pas Dark Maul, on connaissait pas Count Dooku et tout ça. Mais là, ce sont des personnages qui vont sûrement réapparaître, qu'on a connus depuis tellement d'années et que même beaucoup de gens comme moi ont connu par rapport aux livres. Donc, on connaît absolument toute leur vie. On a l'impression d'avoir vécu avec eux depuis 40 ans. Donc, ça sera complètement différent.
Ben, en fait, la prélogie, on savait que c'était la montée au, ben, pas la montée au pouvoir, mais la croissance d'Anakin Skywalker vers Darth Vader. Donc, on savait de quoi ça allait traiter en général.
Voilà, aussi, ouais.
Mais maintenant, on arrive à une limite que, bon, on va en parler dans une prochaine émission. Mais on repart avec un clean slate, comme ils disent en anglais. C'est ouais. On a, à part connaissance du trio, on sait absolument pas vers où ça s'en va. Donc, pour ça, c'est une anticipation aussi grande que peut-être quand les gens qui attendaient l'Empire contre-attaque voient qu'est-ce qui allait se passer. Et c'était un peu le même genre, là. Ils connaissaient pas Star Wars, ils ont vu l'épisode 4. Après, ils essayaient d'anticiper l'épisode 5 et 6. C'est pas évident, t'as une anticipation incroyable, t'as aucune idée qu'est-ce qui va se passer.
C'est sûr que la prélogie, on savait exactement, évidemment, on savait qu'on allait arriver à l'épisode 4, donc on savait que l'empereur Palpatine était empereur, on savait qu'il y avait Dark Vador, on savait qu'il y avait...
Une guerre des clones qui avait été mentionnée voilà. Par Obi-Wan, donc...
Donc c'est sûr que, comme tu dis, qu'en repartant en arrière, on savait un peu à quoi s'attendre, puis on avait déjà des informations. Je sais qu'on savait depuis très très longtemps qu'Anakin et Obi-Wan se combattaient au bord de la lave où ils se faisaient des figurines et tout ça, alors que là, effectivement, comme tu dis, on ne sait absolument rien. On a de tout petits indices par rapport, mais c'est des très vieilles interviews de George Lucas où on sait à peu près, à force, c'est tellement vieux qu'on ne sait plus si ce sont vraiment des rumeurs ou des trucs qu'il écrivait à l'époque et peut-être qu'il a laissé tomber, mais la plus grosse rumeur qui vient, c'est que ça se redirigerait vers la descendance. Mais bon, après, de toute façon, c'est un peu logique. Enfin, faut voir après, est-ce qu'il a modifié un peu son fameux story treatment qu'il a donné à Kathleen Kennedy, on ne sait pas. Est-ce qu'il l'a modifié depuis? Est-ce qu'il l'a un peu dépoussiéré? Est-ce qu'il l'a changé? Mais c'est sûr que peut-être qu'il avait prévu les personnages comme ils étaient 3 ans après, par exemple, après épisode 6.
De toute façon, on va en parler dans une autre émission.
Oui, voilà, oui.
Mais je vais essayer de t'arrêter. Tu pars, tu es inarrêtable.
Ouais. C'est encore la preuve. On peut commencer à débattre et ne plus s'arrêter parce qu'on a envie, d'en parler, on a envie de savoir ce qui se passe. Et justement, c'est ce qui va alimenter toutes nos prochaines émissions. C'est encore une preuve.
Et je crois que Jean-François a quitté. Donc,
non, je suis encore là.
Ok, d'accord. J'étais sûr.
S'il a le temps encore d'écouter un deuxième commentaire que j'ai eu par SVU, enfin Star Wars Universe, de quelqu'un. Donc, il s'appelle Dark Funifuter. Voilà son commentaire. J'ai quelques sursauts d'enthousiasme épisodique au détour d'une œuvre récente de lieu. Il me reste encore des pans entiers à explorer, mais dans l'ensemble, je considère que la production Star Wars décline. J'attends d'avoir des informations sur le scénario de l'épisode 7 et sur le devenir de l'univers étendu de la période Nouvelle République, auquel je suis très attaché pour définir mon sentiment vis-à-vis de la postlogie et de ce qui en découlera. Les retcons à outrance, Force Unleashed, Clone Wars, etc., les annonces d'annulation et de reports à répétition, leurs explications foireuses autour des romans, jeux vidéo, comics et séries télé, ainsi que les mutations de Lucasfilm et ses nouveaux partenariats, m'inquiètent et me désolent. Je prends conscience que les œuvres avec lesquelles j'ai construit ma passion sont devenues vintage. C'était lieu des années 90. Qu'en restait-il et qu'en restera-t-il après l'épisode 7? Évidemment, ça aussi, je pense qu'on pourra en faire un débat, ça, c'est sûr, on se demande... Encore une fois, comme on en parlait, on se demande vraiment ce que va devenir toute notre passion qu'on a suivie depuis 20 ans et tout ça, parce qu'on est dans une période complètement inconnue. Donc, je pense sont inquiets, les femmes se demandent ce qui va se passer. Et je pense que ça aussi, ça les ramène vers d'autres fans et justement, ils s'inquiètent vers d'autres fans en disant « qu'est-ce que tu en penses toi-même? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu n'es pas confiant ?» Donc ça aussi, je pense que effectivement, c'est une autre marque comme quoi la communauté se réagit et se pose des questions. Ça, c'est évident.
Qu'est-ce que tu allais dire, Jean-François?
Je m'allais dire, je pense, la nouvelle que tout le monde craint ou qui anticipe, c'est de savoir ce qui va se passer avec l'univers étendu. Ils sont tous en train de comme redéfinir. Fait qu'on sait pas ce qui est bon, ce qui est pas bon. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a des fans qui vont... abandonnés ou qui vont... C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde.
Non. D'ailleurs, ça sera, on peut déjà dire que ça sera sûrement un de nos prochains débats. Comment vous voyez l'univers étendu après l'épisode 7? Quelqu'un comme moi qui vit plus dans l'univers étendu que dans les films, j'ai vraiment une peur pas possible. Et justement, je suis à l'affût de chaque petite info qu'on pourrait avoir. Et donc, justement...
Mais comme on mentionnait tout à l'heure, on a énormément de questions qui ne sont pas encore répondues, que ce soit pour les jeux vidéo, l'univers étendu, tout ce qui est... le casting, ça, on va le savoir bientôt, mais je veux dire, tout ce qui est autour de la franchise, autre que les films, on a énormément... de questions encore qui vont éventuellement être répondues. Donc, présentement, on fait juste attendre, spéculer.
Au sein de l'univers Star Wars, c'est sûr qu'il y a un énorme point d'interrogation un peu partout. Et pour l'instant, même si on a hâte, je pense que Disney devrait un peu mettre les points sur les i parce qu'ils ferment LucasArts, ils arrêtent des jeux vidéo, on ne sait pas ce que va devenir l'univers étendu et tout ça, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors,
dans ce genre de compagnie-là, en fait, je peux un peu... Je ne travaille pas dans le domaine... cinématographique, mais dans les entreprises, ça prend plus de temps qu'on peut croire organiser des trucs de ce genre-là puis donner des bonnes réponses. Donc, au lieu de parler puis de faire des erreurs, on attend de tout bien placer et après on l'annonce. Ça ne sert à rien de répondre rapidement. Les fans vont rester fans de toute façon avec la franchise Star Wars.
Ah oui, ça c'est
donc,
sûr.
Donc, ça ne sert à rien de pousser quelque chose trop rapidement.
Les nouveaux films vont faire venir toute une nouvelle génération. Donc là aussi, je pense qu'il faudra jouer sur ça, que ce soit pour Star Wars en direct ou les sites internet Star Wars. Je pense que, évidemment, comme moi qui ai été un petit jeuneau lorsque j'ai vraiment commencé à surfer sur les forums Star Wars, moi je vais avoir l'autre vision avec les petits jeunes qui vont arriver avec la troisième trilogie. J'aurai la vision des vieux qui ont vu les petits jeunes arriver entre 99 et 2005, même 2008 un peu. Je pense je vais avoir cette vision là des petits jeunes de 12-13 ans qui vont arriver en masse. Et peut-être que là je me sentirai encore plus vieux.
Yeah. Sur ce, je vais devoir vous quitter.
D'accord, bien. Merci beaucoup pour ta participation.
Ça me fait plaisir. Alors, on se repart.
À plus tard, Jean-François.
À la prochaine, JF.
Bien, on remercie encore une fois Jean-François pour sa participation. Et donc, je pense que nous avons tout dit sur ce débat, même si on pourrait sûrement y continuer encore longtemps. Mais je pense qu'à force, on irait trop loin dans d'autres sujets. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour ce débat. Et j'espère que ça vous aura plu.
Oui, et s'il y en a qui veulent donner leur propre commentaire, vous pourrez communiquer à l'adresse qu'on va vous donner à la fin de l'émission.
Qu'on va vous donner dans quelques instants. Donc, nous allons pouvoir donc passer à la conclusion de l'émission. Bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était un bon début pour une reprise de nos émissions. Donc, on vous annonce que l'émission 91, nous devrions enregistrer ou le dimanche 11 mai ou dimanche 18 mai. Et le débat sera, en se basant uniquement sur les films, comment voyez-vous l'épisode 7? Bon, peut-être que ce débat sera un tout petit peu modifié par rapport, peut-être si on a de grosses annonces. Donc, effectivement, nous essaierons quand même, comme on vous le précisait un peu plus tôt, essayer d'éviter tout ce qui est spoiler, mais je pense qu'il n'y aura pas assez d'informations d'ici là pour spoiler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, comme toujours, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@swendirect.com. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Mais ce n'est pas le seul moyen pour rester en contact avec nous. Vous avez deux autres solutions. Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook à l'adresse facebook.com/SW en direct, où vous pourrez discuter avec les animateurs ou bien nous suivre encore sur Twitter à l'usager SW en direct. Mais nous invitons également à nous laisser un commentaire positif ou négatif sur iTunes, où vous pouvez retrouver nos émissions, ce qui permettra d'améliorer notre visibilité et ainsi de partager nos émissions, car le bouche à l'oreille est notre meilleur pub.
Idéalement positif, parce que ça va nous faire monter sur iTunes.
Effectivement, mais si vous avez des commentaires négatifs, on est toujours là pour améliorer nos émissions. Alors, de la part de Danny, Sébastien et Jean-François, qui est déjà parti, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et à très bientôt.
Ici le grand amiral Thrawn, vous êtes à l'écoute de Star Wars en direct.